Nous sommes le 19 décembre 2014 et vous écoutez la quatrième partie du 62e épisode de Proxy Jeux.
Et un grand merci à Geeklette, la cariatre, Christophe Bonnefoy, Cyril Morin, Merlin du Ménil, Guillaume Aubert, un Toulousain, Benjamin, Arnaud, Femme d'Oel, Mickaël Le Bourris et Geoffroy. Bonjour Jérémy.
Bonjour Olivier. Et bonjour Eve.
Bonjour.
Ça devient de plus en plus compliqué. Et oui, nous sommes le 19 décembre, il est minuit 5.
Minuit 5, et oui.
Et c'est de pire en pire, donc on va vous parler
des jeux du moment.
Partie.
On a plein de jeux du moment.
Oui, oui, oui.
Enfin, des jeux. Moi, j'ai pas de coup de cœur particulier, mais plein de jeux auxquels j'ai joué et que j'en quand même c'est sympa. Ah, mais moi, j'ai joué aussi à ça.
Elle va présenter ça.
Le jeu où tu lances des cacachas. Non, des cacas de lapin.
Non,
Coco King. On parle de Coco King. Le jeu où tu lances des cacas de lapin.
C'est quoi ces petites boules au chocolat là que tu. Peut-être avec du raisin de.
Ah non. Avec des raisins dedans.
Ouais, parce que sinon, c'est la consistance qui est pas bonne.
Ouais, bah c'est comme un caca de lapin, quoi.
Je sais pas. J'ai jamais mangé.
Bref, dans Coco King, on lance avec des singes.
Non, arrête, c'est Eve qui va présenter ça. Donc ce soir, encore
ça
une fois,
devient n'importe quoi.
Nous sommes accompagnés de Eve Pizzagalli. On n'a pas parlé de toi, au fait.
C'est pas grave, je suis.
T'es pas une nouveauté du 2014, donc.
Et voilà, c'est fini, tu vois.
On n'a même pas parlé dans le débrief de 2014, on n'a même pas parlé de l'épisode rose. Incroyable.
Bref. Eh ben ouais, mais comme c'était pas noté, on en a pas parlé. Voilà. Ça peut, voilà.
Et
c'est comme ça.
Et de toute la bière qu'elles ont bu toutes les deux. Ouais.
On a des photos, j'ai des photos du nombre de bouteilles. Ouais. Enfin, ça tenait même pas dans le cadre, quoi.
N'importe quoi.
Et ce soir, on va vous parler des jeux du moment, les jeux qu'on aime et auxquels on joue beaucoup.
Et on va commencer par la chronique de Yenibus, une chronique très intéressante qui fait un retour sous le buzz de 2014.
Mais c'est quoi ce jeu?
Sous le buzz par Yanibus.
Bonne année joueuse, bonne année joueur et bonne année à la Proxy Team. Au moment où j'enregistre ce podcast, c'est-à-dire très en retard par rapport à ce que j'avais promis à Jérémy et Olivier, c'est le moment des tops. On est en toute fin d'année 2014 et je vais donc me plier à la coutume et regarder un peu dans les derniers mois les jeux sortis qui pourraient, s'ils continuent à sortir aussi souvent sur ma table de jeu, passer dans une chronique sous le buzz. Bien entendu, fidèle au ton de la chronique, je ne vais pas chercher les jeux uniquement sortis en 2014, mais les jeux auxquels j'ai joué en 2014 et qui ont attiré mon attention. Parce qu'effectivement, un bon jeu, c'est surtout un jeu console. C'est parti. Tout d'abord, Spyrium. Alors Spyrium, pour moi, c'est une grosse incompréhension. Je comprends pas pourquoi ce jeu n'a pas fait au moins autant de bus que Kellus, du même auteur. Sans doute que la sortie quelques semaines avant SN l'a desservi, mais selon moi c'est vraiment un jeu génial. Le mécanisme de poste d'ouvrier est vu et revu. Le Spyrium s'en inspire très franchement, puisqu'il faut effectivement poser des ouvriers pour accéder à certaines actions, mais il ajoute quelque chose qui est justement le retrait d'ouvrier. En fait, vous devez poser votre ouvrier pour pouvoir plus tard bénéficier de cette action, mais c'est surtout le moment où vous allez retirer votre ouvrier qui va déterminer le prix que ça va vous coûter, l'efficacité en fait que vous allez en retirer, soit une efficacité financière, soit une efficacité en termes de production de valeur. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, une vraie originalité encore une fois dans cette mécanique qui commence à gaver un peu le marché des jeux un peu à l'allemande, mais quelque chose à voir. Autre jeu sorti il y a bien plus de temps, il me semble que c'est en 2011, au plus tard en 2012, c'est Biblios. Je l'ai découvert finalement que cette année, je l'avais depuis longtemps dans ma ludothèque et je l'avais jamais sorti. Et finalement, là, cette année, j'ai décidé d'en faire une partie. En plus, en 2015, il y a un jeu du même auteur, Biblios The Dice Game, qui va sortir et je profiterai de cette sortie donc, pour vous en reparler un petit peu. C'est un jeu d'enchères qui se joue en deux phases. La première phase, vous allez distribuer finalement les cartes aux joueurs et constituer une pile neutre qui va être mise aux enchères le tour suivant, et grâce aux cartes récupérées dans la première phase, les joueurs vont enchérir pour récupérer des cartes de différentes couleurs qui rapporteront des points de victoire à la fin de la partie. C'est vraiment un jeu fun et rapide. Du coup, je pense que je vais encore en faire quelques parties là sur 2015. Autre jeu, donc là je critiquais un petit peu le, l'omniprésence, on va dire, du mécanisme de poste d'ouvrier. Et je vais vous parler d'un jeu de poste d'ouvrier qui m'a bien intéressé là cette année, qui est sorti chez Gigamic pour SN, il me semble, et qui est Gueule Noire, de SN 2013, pardon, et qui est Gueule Noire. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'il a moins buzzé que les autres? Je pense qu'il est peut-être un petit peu complexe pour être découvert, on va dire, en famille, sans qu'il y ait un accompagnateur un peu chevronné sur le sujet, et peut-être pas assez complexe pour, justement, une table de joueurs chevronnés. Mais jetez-y un œil, c'est vraiment un jeu vraiment sympa de pose d'ouvrier où il y a quelque chose qui est assez clair dans Gueule Noire par rapport à d'autres jeux un peu plus complexes, c'est le encore une fois la cadence des actions. Voilà, l'objectif est de répondre à des commandes de charbon. Il y a différents types de charbon, donc pour pouvoir répondre à ces commandes, il faut creuser les tunnels, donc acheter les berlines de charbon qui vont bien, aller récupérer le charbon, gagner l'argent pour acheter les berlines qui permettent de récupérer le charbon, qui permettent ensuite d'être envoyé dans les commandes. Donc il y a vraiment un rythme assez clair, finalement assez thématique pour un jeu à l'allemande qui mérite le coup d'œil. Expédition Northwest Passage est un autre jeu sorti à Essen en 2013 et qui hélas n'a pas eu les honneurs du buzz en 2014. Pourtant, c'est un très bon jeu de pose de tuiles et qui mêle en fait la pose de tuiles, la course et également le placement d'ouvriers. Il y a une originalité thématique qui fait que certaines parties du plateau gèlent en fonction de l'avancée d'un pion et en fait ça bloque votre expédition en bateau. Ça nécessite pour vous de sortir en traîneau et donc de diviser en fait votre équipe d'ouvriers à positionner sur les actions. C'est vraiment un jeu intéressant avec une forte immersion. On a vraiment l'impression d'aller chercher en premier le Northwest Passage et puis ensuite encore une fois il faut regarder pour pas ni bloquer son bateau trop tôt ni bloquer au retour son traîneau et pouvoir revenir avec l'ensemble des membres de son expédition. Dernière petite sucrerie, la sortie à Essen 2014 cette fois-ci, c'est Baker Speed. En fait, c'est un petit jeu de rapidité qui est sorti, alors, de mémoire c'était 5€, et c'est le musée du jeu autrichien en fait qui sort tous les ans un petit jeu pour s'autofinancer ou en tout cas avoir quelques subsides. C'est un jeu de rapidité dans lequel vous allez lancer 3 dés consécutivement et devoir vous défausser de cartes qui correspondent aux typologies des dés qui sont sortis. Rien d'extrêmement original, mais au moins ça change encore une fois un petit peu du Jungle Speed, et les 3 ou 4 fois où j'ai eu la chance de le sortir depuis son achat à la SN 2014, c'est un jeu qui a bien marché. Comme vous le voyez, il y a de quoi faire encore, et j'ai pas encore creusé sur trop de jeux plus anciennement sortis. Donc il y a encore beaucoup de jeux à explorer, et je pense que la liste pour cette chronique n'est pas encore atteinte. La fin de la liste n'est pas encore atteinte, pardon. Donc j'ai hâte de vous retrouver en 2015, et d'ici là...
Voilà, merci. Merci pour cette chronique captivante. Encore une fois, par la magie du voyage dans le temps, nous ne l'avons pas encore écouté.
Mais faut rappeler qu'on
elle n'a pas été enregistrée.
En général, on a décalé d'une semaine parce qu'on enregistre plutôt l'avant-dernière semaine du mois. Donc plutôt autour du 23, c'est le 18 pour nous permettre de passer un bon Noël. Est-ce que tu seras en congé la semaine prochaine? Ou pendant les 15 prochains jours
Oui, un petit peu.
Tu vas jouer?
Ah ben, c'est pas parce que je suis en congé ou pas en congé que je joue pas. Ah, oui, je joue
moi, c'est mon cas. Donc,
Ah bon. Ouais. Alors, tu vas. Bah, en fait, oui, vas-y, tu vas jouer à quoi?
Eh bien. Mais qu'est-ce que j'ai dit que j'allais présenter déjà?
Coco King. Non, ça c'est Eve.
Non, ça c'est Eve.
Comment ça Coco King, ça s'appelle?
Oui, c'est Coco King.
Ok.
Eh ben, vas-y.
Alors, Coco King, c'est enfin, pas...
C'est un truc, on va pas y jouer puisqu'on l'a pas.
On va pas jouer d'ailleurs. Mais on y a joué il y a peu de temps, c'était très rigolo. C'est un petit jeu donc où vous avez des gobelets et des petits singes très mignons qui sont des espèces de systèmes de catapultes. Donc on pose sa petite bille dans les mains du singe et on les projette et il faut viser les gobelets. Et quand on récupère un gobelet, on le met devant soi, et quand on en a 5, on a gagné. On peut piquer les gobelets des autres si on arrive à viser leur gobelet. Ouais. Ça paye pas de mine, c'était très rigolo.
Et on les empile. On empile les gobelets en fait.
Et tu peux gagner les gobelets, tu gagnes les gobelets des autres, et à la fin de la partie, si personne a mis 5 gobelets, enfin 6 gobelets même, cette personne a fait réussir la pyramide, c'est celui qui a le plus de petites noix de coco dans les gobelets.
Tout à fait.
Donc t'as intérêt à dépiquer les gobelets des autres qui ont des.
Ouais, et ça vole dans toute la pièce, et si vous avez un chat, c'est l'enfer, parce qu'à mon avis, il essaie de toutes les choper. C'est
voilà, c'est Coco King qui sort, qui était avant sorti en coréen, et qui sort chez, qui vient de sortir chez Gigamic, et qui est vendu 30 euros.
C'est Coco King, ou ça c'est le nom français.
C'est le nom français, Coco King, il s'appelait Coconut ou un truc comme
c'est
ça,
version coréenne. Coconut que j'ai retenu, oui.
Oui, mais parlons de la version française du coup.
Donc ton jeu du moment, un de tes jeux du moment.
J'ai pas de gros coup de cœur du moment en fait.
Enfin, moi c'est Colt Express. Mais...
Ah mais Colt Express, mais on en a parlé dans l'épisode précédent, bien sûr, oui, Colt Express, c'est, j'adore. Vraiment, c'est un jeu. Enfin, à chaque fois que tu présentes à des gens, tu fais une partie, t'en refais une dans la foulée, quoi. Après, non, j'ai. Alors, Deus, il y en a qui nous poussent à parler de Deus, mais j'estime que j'ai pas encore assez joué pour vraiment en parler. Non, bah, je.
C'est Yannibus qui est le seul.
Ouais, carrément, c'est Yannibus, quoi, qui ose nous demander comme ça.
Avec deux inconnus. Il est tout seul dans la chatroom avec deux inconnus.
Deux inconnus, ES en plus. Bah, si, c'est des inconnus, donc on va. Il y a une côté un petit peu. Forcément, les mots féminins.
Donc, alors, je vais faire un appel à envoyez-nous de la bière. Parce que là, on s'est. D'abord, on a commencé au blanc, maintenant on est au whisky et ça va pas du tout, du tout, quoi.
Non, moi j'ai arrêté ce que je conduis après.
Moi ouais. Je suis passé au verre de lait, personnellement.
Très bien.
Je veux dire Obélix.
Alors
Obélix, il prend son verre de lait dans le. C'est pas du lait de chèvre.
Obélix.
Mais ils prennent leur verre de lait quand ils sont fâchés.
Moi, oh, j'ai pas cette référence-là. Tu sais, moi, la BD.
La BD belge en plus. Donc, un jeu auquel j'ai joué en ce moment, c'est Train.
Trains.
Bah, du coup, j'ai joué la version française, on dit Train.
Et t'es pas, alors, t'es pas un peu déçu d'avoir perdu tous ces centaines d'euros à avoir revendu ton.
Non, parce que.
Je suis très content d'avoir la version originale.
Ouais, mais quand tu la revendras pas, c'est pareil.
C'est un peu comme. Oui, c'est vrai. Un peu comme de Barbarossa. Ouais, c'est le même problème que Barbarossa.
Alors, donc, la version que j'avais, on avait acheté un petit peu en aveugle sur Ryzen il y a 2-3 ans, le Trains en un version japonaise-anglaise.
On était juste dans la file au bon moment et on a donné 50 euros.
Oui, parce qu'on nous a dit, ouais, c'est le truc que j'ai à voir. Ok, bon. Bon, sauf que voilà, j'ai jamais joué, donc à la fin, je l'ai revendu et j'ai racheté maintenant la version française qu'en fait, on a pu la jouer une fois sur un salon avec. Avec mon fils, et du coup, il a bien aimé, donc il a voulu qu'on l'achète, donc on l'a acheté, et donc depuis, on a refait quelques parties. Donc déjà, premier constat, à deux, mais ça, je vous apprendrai rien, c'est pas très intéressant. Ça manque il y aura pas d'interaction.
Au parce niveau que, du plateau.
Ouais, parce que Train, c'est pour situer, c'est un jeu de deck building très, très, très inspiré de Dominion. Et la seule différence, c'est qu'en fait, au lieu d'acheter des provinces, des duchés, etc., pour marquer des points de victoire, une grosse partie des points de victoire se marque sur le plateau, parce qu'on va construire le réseau ferré. Et le plateau, évidemment, quand on va jouer à 4, il y aura une certaine interaction, et quand on construit là où les autres ont déjà construit, ça coûte plus cher. Donc là, il y a de l'interaction, et puis il faut aller prendre les villes, etc., donc s'il y a des gares, ça rapporte plus de points en fin de partie. À 2, le plateau, il est pas réduit, donc... hier on a fait une partie, on a joué chacun dans son coin sur le plateau.
Il est pas, mais ça c'est un problème en fait. Enfin, c'est le problème.
Il n'y a pas que ce problème. Pour jouer à deux, en fait, le jeu est pas du tout taillé pour deux. C'est-à-dire qu'ils réduisent pas, parce que la fin de partie elle arrive si jamais on a acheté, si on a fini 4 piles, ou si on a fini toutes les gares, ou si on a mis tous ses cubes.
Ce qui n'arrive pas.
À deux, il aurait fallu réduire le nombre de gares, réduire le nombre de cubes par joueur et réduire le plateau. Enfin bref, voilà. Bon après, vous pouvez jouer à 3 ou 4. On retrouve l'esprit de Dominion dans le sens à son tour de jeu, on va pouvoir acheter des cartes, on va pouvoir faire des actions. La différence, c'est que c'est super plus libre. On peut jouer autant d'actions qu'on veut, on peut faire autant d'achats qu'on veut. Et donc là, sur ces aspects-là, il y a une liberté totale d'action pour les joueurs. Ça enlève beaucoup de contraintes, ce qui enlève aussi beaucoup de sel au jeu. Premier point.
Oui, oui, sauf que...
Ça le simplifie, en fait. Pour quelqu'un qui veut démarrer dans le deck building, peut-être que Train, ça leur parlera plus. Pour un joueur de Dominion, il y a du coup cette dimension stratégique qui n'y est plus. Un autre aspect par contre intéressant qui a été rajouté par l'auteur, c'est qu'en fait quand on va poser des rails, quand on va construire des gares, on va piocher des cartes ferrailles qui sont des cartes pourries, un peu comme les malédictions dans Dominion.
On va pourrir sa main.
On va pourrir sa main. Et ensuite au fur et à mesure de la partie, on va avoir plus en plus de ferrailles en main. Donc quand des fois, on pioche sa main, t'as 4 ou 5 ferrailles.
Mais tu peux pas les recycler ?
Eh ben, il n'y a pas beaucoup de cartes pour recycler tes cartes. Donc, il y en a une, en fait, qui te conseille lors d'un de tes premières parties, la décharge. Après, il n'y a plus. Donc, en fait, il faut compenser ça par d'autres systèmes. Donc là, c'est un petit peu différent de Dominion, mais en fait, ce que je reproche, c'est que du coup, ça alourdit inutilement le jeu. Il n'y a pas moyen de se débarrasser déjà de ces cartes. Alors, c'est des trains, mais c'est des trains omnibus, mais qui remplacent les cuivres, on va dire, de Dominion en matière d'argent. Il n'y a pas moyen non plus de s'en débarrasser très facilement pour les remplacer par des cartes de meilleure valeur. Bref, épurer le deck, c'est pas tout à fait possible dans ce jeu. Il y a beaucoup de cartes qui sont typiquement les mêmes que dans Dominion. Alors, je sais plus les noms, mais c'est exactement les mêmes effets que on retrouve dans Dominion.
Transposés dans l'univers ferroviaire.
Ouais, ouais. Qui sont transposés. Bon, après, c'est pas très gênant. Ce qui manque, c'est de pouvoir épurer le deck. Les extensions sont sorties déjà dans la version anglaise, donc je sais pas ce qu'elles amènent. Après, voilà, le jeu, on y joue à deux, ça joue en 40 minutes.
Excuse-moi, tu dis dans la version anglaise, mais c'est dans la version AEG ou c'est pas
ouais,
la version
AEG, ouais. Je sais pas si la version japonaise, je pense que la version japonaise, elle s'arrête là.
Quoi, c'est ouais, elle s'arrête là. Ouais.
Ils font juste, après, une fois qu'ils ont cédé la licence, c'est terminé. C'est donc c'était Rising Sun là, qui est sorti chez AEG, je pense que ça arrivera peut-être en français. En tout cas, dans la boîte, elle est énorme, c'est une boîte carrée plus grosse qu'une boîte de Dominion, plus haute en fait.
Le style Battle Lore un peu, qui était un peu plus dans mon
ouais c'est un peu ça plus, ouais c'est un mi-chemin entre les deux je pense en termes de hauteur.
Pas Battle Lore mais le truc trône de fer là, bref, ok, plus grosse.
Non mais plus grosse un petit peu en hauteur,
ouais.
Qui forcément enfin il y a un insert, on peut mettre toutes les cartes, ça tient pas à la moitié de la boîte, donc il y a de la place pour les futures extensions.
Tu veux dire que la boîte est plus grosse mais
c'est
plus vide
de, mais plus vide. Ah ouais, carrément. Et d'accord. C'est pas le même système de tri que dans Dominion, donc après on aime ou on aime pas, peu importe, on pourra mettre en tout cas les extensions dedans. Le plateau il est biphase, donc il y a deux cartes différentes qui sont différentes, donc il y en a une, voilà, celle il y a deux cartes, il y en a une ou à deux, on va jouer chacun dans son coin.
Nagano et Nagoya.
Oui, alors je connais pas assez la carte du Japon pour.
Non, c'était une dédicace.
Pour vous dire. Oui, je sais, mais je connais pas assez le Japon pour. Et puis je me rappelle pas ce qu'il y a dessus. Bon, ça permet un peu de variété, mais.
Et voilà, ouais, mais une variété pas... comme dans les cartes de Edge of Steam où t'avais vraiment des cartes très différentes les unes des autres ou.
Les builds sont. Non, pour moi, c'est à peu près pareil.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est
les builds sont pas placés au même endroit, mais j'ai pas senti sur les quelques parties que j'ai faites, j'ai pas senti de grosses différences dans la façon de jouer. Et pas, en jouant à deux, en tout cas, pas une plus grosse interaction à certains endroits. Et en plus, je pense qu'avec l'expérience, en début de partie, tu places ton premier cube en fait, de rail où tu veux. Globalement, je pense que les joueurs ils vont toujours aller se placer au bout d'un moment aux mêmes endroits.
Ah bon ? Ouais.
Mais une fois que tu as repéré les bons spots, tu vas toujours te mettre là au début pour commencer. C'est pas. Voilà. Malgré tout, si vous n'avez jamais essayé le deck building, si vous, au contraire, si vous aimez beaucoup le deck building, vous serez sans doute déçu par rapport à Dominion, vous n'aurez pas la même richesse, la même profondeur. Par contre, si vous n'avez jamais. Oser de peur justement du côté un petit peu difficile de Dominion, sachez que 1, Dominion est très accessible, mais que si malgré tout vous voulez quelque chose d'un peu plus simple ou plus thématisé parce que Dominion ça reste un peu abstrait, Train peut peut-être effectivement correspondre à ce que vous cherchez et vous pouvez l'essayer, donc ça vaut une quarantaine d'euros, forcément vous le trouverez chez Philibert.
Et pour commencer le deck building, à part nous dire qu'il faut commencer par...
Il faut commencer par Dominion, par contre.
Dominion ? Il y a un Dominion pour les débutants ou ça existe ou...
Bah, Dominion boîte de base en fait. C'est le plus simple.
Dominion quoi.
Dominion normal. Après, si vous voulez tout de suite, si vous savez que vous voulez un peu plus d'intérêt.
C'est chiant, Dominion de base quoi.
Dominion de base, moi je le trouve un peu ennuyeux. Et je vous Alors, si vous voulez, mais si vraiment vous débutez, vous avez peur, vous prenez Dominion de base. Vous pouvez jouer des parties assez autistes, chacun dans votre coin. Maintenant, si vous voulez un peu plus d'interaction dès le départ, prenez Dominion l'Intrigue. C'est une boîte qui est en stand-alone aussi, qui est fournie avec tout le matériel et qui vous permet déjà d'avoir un peu plus d'interaction. Et puis après, je vous invite à écouter notre dossier qu'on avait fait sur Dominion il y a quelques années.
Puis après, jouer à Rise of the Galaxy, c'est bien mieux.
Non. Je croyais pendant longtemps, jusqu'à ce que je découvre la richesse qu'il y a dans un Dominion que n'a pas Rise of the Galaxy. Mais écoutez nos dossiers Dominion, nos dossiers Rise of the Galaxy sur Motor, vous les trouverez sur le site et puis après faites votre choix. Et Olivier, des punch boards de Alchemist.
Ouais, alors ça c'est.
Mais tu l'avais déjà dépunché à Aizen.
Une petite aparté, tu sais, c'est.
Interlude.
Interlude. Je suis pas en train de dépuncher en fait, je suis en train de.
Décéphaner.
J'ai reçu. Un colis. J'en reçois beaucoup de colis en ce moment, c'est normal. Et d'autant plus, alors on me dit dans l'oreillette, au fait, t'as reçu un colis de Tchéquie, de République Tchèque. Je dis, quoi ? J'attends pas de colis de République Tchèque.
Enfin, pas officiellement.
Et on me dit, c'est de la taille de deux vinyles. Bon, ok.
Deux vinyles.
Alors là, je me dis, ça peut pas être un jeu, c'est pas possible. Puis j'oublie, puis après j'arrive à la maison, et qu'est-ce que je vois ? Mais Punchboard, vous vous rappelez peut-être que dans l'épisode numéro 60, je sais pas combien, 50 quelque chose, les alchimistes qu'on avait reçus d'Essen, enfin qu'on avait acheté à Essen, n'étaient pas punchés à la bonne taille. C'est-à-dire que on a des petits jetons qui correspondent aux éléments et à leur valeur positive, négative et leur couleur. Et ces petits jetons ne rentrent pas nativement dans les emplacements adéquats. Donc tu es obligé de forcer, ça c'est la merde, c'est pas. Et il a fallu que je me log sur un site, que je donne mon adresse, tout ça. Et après j'ai complètement oublié. C'est-à-dire je me suis dit bon bah c'est bon, enfin tu vois j'ai fait la j'ai
3
fait
mois
la
plus tard
pour avoir mais même pas 3 mois plus tard,
attends,
octobre,
2 mois.
Novembre, décembre, c'est un mois et demi plus tard, j'ai reçu le truc. Donc un mois et demi, ça peut se paraître long.
Bah, ils ont dû réimprimer.
Ça peut paraître super court par rapport à certains Kickstarter. Et
t'as Kickstarté en fait la planche de pion.
Ouais, c'est ça. Et donc j'ai reçu une planche de pion plus des trucs. C'était cool.
Donc voilà, donc Olivier a de quoi maintenant dépuncher encore pendant 20 minutes.
Ce qui est super bizarre, et c'est pour ça que je vais pouvoir faire du bruit pendant. Alors ce qui est super bizarre, c'est qu'il y a rien qui accompagne en fait le
courrier.
Le courrier.
Cher.
Parce que c'est l'imprimeur en fait qui a envoyé ça. Il avait une liste et en fait il l'a envoyé directement là aux personnes. Et puis ce qui est bizarre aussi, c'est qu'en fait il a imprimé un peu plus que ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'il y a
du tout réimprimé. En fait.
Bah non, moi j'y étais un peu à la brutasse et il y a des trucs que j'aurais bien voulu récupérer, mais ça y est pas.
Bref. Très bien. Et on va parler que de ça.
C'est ça. Je sais même pas ce que c'est ça.
C'est joli. C'est des cartes postales abstraites. Des trucs bariolés.
Non, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Je vais
c'est une pyramide.
Ça, et on verra ça
une pyramide des couleurs.
Le jeu dont je voulais vous parler, en fait.
C'est un jeu tout simple. C'est le nouveau Monopoly.
C'est le nouveau
troisième
Cranium.
Millénaire.
C'est le nouveau Cranium. Tout le monde connaît Cranium, ce jeu où on doit soit dessiner, soit utiliser de la pâte à modeler, soit peut-être chanter, je sais plus, pour faire deviner un truc à ses équipiers. C'est ça le concept, c'est ça. En l'occurrence, Marc Ribeiro, il s'est dit, pourquoi utiliser qu'un seul média pour faire deviner des choses, et pourquoi pas laisser le choix à la personne qui fait deviner du média, enfin quand je parle de média, ça peut être le dessin, ça peut être le mime, ça peut être la pâte à modeler, ça peut être fredonner, dans toute la chanson, ça peut être aussi tu peux essayer de faire deviner quelque chose avec un ou deux mots.
En fait, c'est une compilation de dessiner c'est gagner, Cranium.
C'est ça. Et puis t'as aussi du fil de fer.
Ouh, ça c'est qui prend
un fil de fer qui est plutôt du fil de plastique.
Ouais, c'est des attaches quoi.
Qui est très agréable à prendre en main. T'en as deux. Et l'idée c'est de dire donc les gens vont avoir 5 minutes, 5 cartes, 2030, 5 cartes, donc 30 secondes par carte, et vont pouvoir choisir la façon dont ils vont faire deviner le mot. Alors ça peut être Napoléon, et Napoléon tu peux le dessiner, tu peux le faire en pâte à modeler, tu peux le mimer, le fredonner.
Et c'est marrant parce qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres quoi. Fredonner Napoléon c'est plus dur peut-être que le mimer.
Sauf que le mimer c'est 20 points et le fredonner c'est 80 points.
Ah, il y a des points en fonction des...
Le fer en fil de fer c'est 120 points. Et si vraiment t'es la ramasse, tu peux dire quel personnage historique est mort sur l'île d'Elbe.
Mais là, ça fait combien, 10 points?
Ça fait 30 points quand même. Et par contre, en deux mots, c'est en un mot, c'est 20 points, en deux mots, c'est 10 points.
D'accord.
C'est tout. Ah si, t'as
le jeu aussi. Donne-nous le nom du jeu, parce que je suis pas sûr qu'on l'ait donné.
Eh oui.
Creativity.
Creativity. Chez Yellow, encore. Et il y a aussi une roue.
Un jeu qui s'est retrouvé sur pas mal de listes de Noël, en fait.
Mais ça, la roue, bien. Tu l'utilises pas parce que c'est de la merde. Parce qu'il faut compter les points, et en fait, c'est pour rattraper les autres.
C'est toujours pareil dans ces jeux, il y a toujours plus de règles en fait que ce que t'as besoin, mais c'est chacun après chacun pioche.
Non, je crois que c'est en fait le besoin du grand public d'avoir des points et d'arriver à pouvoir se mesurer par rapport aux autres et savoir qui a gagné. Donc en fait nous on joue pour jouer, donc on joue pour faire deviner et puis on s'en fout en fait de savoir qui est.
Oui, pour rigoler, etc. C'est un peu comme dans Concept où le système de calcul de points était un peu compliqué pour rien.
Mais par contre le grand public il a besoin d'avoir ça, donc c'est important. Et là en l'occurrence le truc il est quand même aussi important parce que si t'as pas de points, ça veut dire que tu prendras ce qui t'intéresse le plus. Et c'est, plus, c'est toujours plus facile de dessiner. Ça c'est toujours Napoléon. Alors après la saucisse, ça se discute. Tu peux faire une saucisse en pâte à modeler. Tu peux faire. C'est plus facile de faire une saucisse en pâte à modeler que de la dessiner ou.
Donc tu peux la mimer.
Ou de la mimer.
Tu peux mimer la saucisse.
J'ai pris une carte totalement au hasard.
Ce que tu dis. On n'est pas sûr ça.
Tu peux fredonner la saucisse.
Tu peux fredonner la saucisse.
Alors c'est combien de fredonner la saucisse d'ailleurs? C'est 120 points. Ah. Ça vaut le coup d'essayer de fredonner la saucisse. Alors pourquoi est-ce que ça nous a plu, tu vois? Parce que ça, c'est un truc, ça a déjà été fait 1000 fois. Cranium, il s'en est vendu des millions de boîtes. Ce qui n'arrivera pas pour Creativity, malheureusement, j'en ai peur. Et pourtant, ça vraiment le gros avantage par rapport à Cranium. De permettre de donner choix à celui qui fait deviner.
Oui, de choisir. C'est ça qui est. C'est la seule innovation. Enfin, la seule. Ouais. Mais celle qui fait la différence.
C'est ça. Donc, Creativity.
Parce qu'en fait, tu subis moins le jeu. Parce que moi, tu vois, un dessin signé, ça va me gonfler. Alors, déjà, bon, c'est pas mon type de jeu, Pictionary. Mais alors.
Et alors, donc, tu subis moins. Et en plus, t'as cette. Pour les gens qui. je pousse le micro. Pour les gens qui sont un petit peu. Qui ont envie de gagner. Et bah tu réfléchis, toi, tu dis ah ouais, tu prends des risques.
Ouais.
C'est-à-dire que tu dis une saucisse fredonnée, c'est difficile, mais quand même, c'est 120 points, c'est beaucoup quoi. Donc tu essaies de fredonner.
Tu prends la saucisse, bien sûr.
C'est pas tu tentes.
Tu fais quoi. Tu scandales le cuiton.
Voilà.
Merveilleux.
Donc. Creativity, c'est un jeu de marque Ribeiro chez Yellow pour 2 à 8 joueurs. Ça marche. Ouais, il doit sûrement y avoir un truc quand t'as un nombre de joueurs impair, mais c'est toujours mieux d'être pair.
Ouais.
12 ans et plus, ça peut se jouer peut-être à moins, mais après, ça sera un peu plus. Les enfants, ils privilégieront. Alors, déjà, il faut qu'ils sachent lire.
C'est un jeu d'ambiance, ouais, mais c'est comme Time's Up, c'est tous ces jeux, ouais.
Ah ouais, mais avec numéro 3 qui a 6 ans et qui veut jouer, c'est compliqué.
Avec numéro 3.
Ah ouais.
Mais c'est plus facile comme ça, ils se mettent. Je donne son nom. Ils se mettent en rang, puis ils savent.
Et comment ça ils... C'est ça. Et pour 30 minutes, ça dure pas longtemps. Ça c'est clairement le jeu avec que tu peux sortir avec qui tu veux, avec n'importe qui, les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux de société et qui vont prendre plus de plaisir qu'avec des jeux de société comme Cranium ou Pictionary. Et en plus tu vois c'est des choses dont les gens connaissent quoi, ils sont habitués, ils sont dans ils restent dans leur zone de confort.
Oui c'est ça, ouais, je connais, ils ont plein de jeux comme ça de ce type là, ils sont toujours contents qu'ils en ont un de plus,
ouais.
Et donc ça vaut une trentaine d'euros.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour Fanduel.
Bonjour Cyrus.
On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Plateau Numérique. Nous allons vous parler d'Ascension.
Ascension, qui est un jeu de société à la base de Justin Gary et Robert Daugherty et Brian Kibler, donc trois Américains, qui sont des anciens joueurs pro de Magic. Et ils l'ont édité en anglais avec un éditeur qui s'appelle Stoneblade. Et la version française a été faite par Marabunta. Ils ont choisi directement de faire le deuxième standalone qui s'appelle Ascension des âmes déchaînées, au lieu en fait du tout premier qui est Chronicle of the Godslayer, et qui est celui qu'on va vous montrer durant cette démo du jeu.
Donc Ascension, c'est un jeu de deck building qui se joue à partir de deux joueurs, dans lequel on va acheter des cartes à la façon de Dominion, en fait, au moyen de deux ressources différentes, les runes d'un côté qui permettent d'acheter des cartes, et les points de force de l'autre côté qui permettent de combattre des monstres, les monstres rapportant des points, et chaque carte rapportant également des points. Points d'honneur, pour être plus précis. Et à la fin de la partie, c'est le joueur qui a le plus de points d'honneur qui remporte la partie.
La version numérique du jeu est sortie en 2011 sur iOS, et c'est le studio Playdeck qui a réalisé l'adaptation. Sur Android, l'adaptation a été réalisée en 2014, suite à un Kickstarter légèrement foireux réalisé par Stoneblade, qui au final s'est soldé par justement la reprise en main de l'application par Playdeck également sur Android.
Vous aurez compris que Fendoval a participé à ce Kickstarter.
Ouais, exactement. Je suis en rogne parce que vraiment il a pris beaucoup de temps à sortir.
Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur la chaîne YouTube de ProxyJeux pour voir la suite.
Alors, pendant que j'y pense, parce qu'après on va oublier, on a une petite chronique. Vous n'oubliez pas qu'on a maintenant les plateaux numériques faits par Cyrus et Fendoel, et ce sera sur la chaîne YouTube de ProxyJeux. Et ce mois-ci, c'est Ascension.
Mmh. Est-ce qu'on a, mis la pub sur
iOS et Android?
On gagne des sous avec ça ou pas?
J'en sais rien du tout. Moi, je gère absolument pas la chaîne YouTube. Je n'ai même pas les accès.
C'est vrai?
Ouais, à chaque fois, on me demande d'aller valider machin, mais je n'ai pas l'accès. Mon compte n'est pas. Enfin, bref, je n'ai pas de compte YouTube.
Voilà,
je ne regarde pas de vidéo. Voilà. Et j'en profite aussi pour rappeler qu'Ascension est sorti normalement sur Steam si vous êtes sous Windows. Donc, vous pouvez peut-être approximativement ce que vous voyez si vous n'avez pas de Windows, enfin d'iOS ou d'Android, vous pouvez peut-être aussi en profiter maintenant sur. Sur Android, ça marche quand même moins bien, mais bref. Et vous pouvez peut-être en profiter mieux sur votre Windows via Steam.
Unibus insiste, mais qu'il est snob ce type.
Quoi? Bah, l'Ascension, combien de temps tout le monde a eu écran noir quand il lançait son Ascension sur Android, quoi?
Mais il n'y a pas eu des mises à jour depuis?
Si, peut-être. Après, mon téléphone est vieux. Mais n'empêche, Starim, ça marchait tout de suite du premier coup.
Regardait-elle la livraison?
Non, mais c'était tout à l'heure, ça. C'est pas.
Ok. Un autre jeu?
Oui.
Bah, allez-y. Vas-y. Alors, je sais pas, j'en ai plusieurs, mais je peux vous parler du nouveau Cash and Gun rapidement, parce qu'on avait dit. Et je confirme, alors, ça fait un petit moment que j'avais pas joué au premier Cash and Gun. Cash and Gun, je rappelle, c'est un jeu où les joueurs sont des truands qui viennent de faire un casse et qui vont se partager le butin. Ça se passe très simplement, ça se joue sur 8 tours, les joueurs, ils ont en main un pistolet en mousse. Ils ont aussi 8 cartes, 3 cartes qui représentent des balles, donc des cartes bang, et puis 5 cartes clic qui sont en fait qui représentent le fait qu'ils ont chargé leur pistolet à vide. Il va y avoir au début, on va mettre sur la table le butin du casse, et ensuite les joueurs, on va compter jusqu'à 3, les joueurs vont pointer avec leur revolver, avec leur arme, un joueur sur lequel ils souhaitent tirer. À partir de là, un des joueurs est le parrain. C'est le considéré comme le premier joueur, on va dire, sera le premier à récupérer
le
butin.
Le parrain.
Et le parrain, il peut dire à un joueur, toi, tu vas viser quelqu'un d'autre.
Toi, tu vas viser quelqu'un d'autre. Je te le dis comme ça, sinon on va t'arriver de mal.
Mais dans les parties, voilà, on a exactement ce type de roleplay. Donc le joueur est obligé de viser quelqu'un d'autre. Il vise par contre qui il veut. Le parrain peut lui dire, tu vises un tel, il peut viser n'importe qui. Et à partir de là, ensuite, les joueurs, on va recompter jusqu'à 3, et les joueurs peuvent décider ou bien ils restent, ou bien ils se couchent. S'ils se couchent, dans ces cas-là, ils ne tireront plus sur leur cible, mais en même temps, s'ils étaient visés, ils seront pas, ils risquent pas de blessure.
Ah, si tu te couches, t'es pas, enfin, si tu tires pas, tu t'es pas tiré dessus.
Ouais.
D'accord.
C'est le moyen quand tu en as trois qui te tirent, qui te pointent, tu commences à te baisser.
Okay,
ou pas. Mais j'en ai vu comme ça, ils mourraient en un coup, parce que quand on a trois blessures, on meurt. C'est un jeu quand même, donc ça pardonne pas. C'est-à-dire, c'est fait exprès, ça rajoute vraiment ce stress.
Pourquoi tu fais ça alors? Parce que t'as pas envie de jouer à Cash and Gun ou?
De quoi?
Bah, si on a trois qui te pointent.
Alors, pour gagner au bout de 8 tours, déjà il faut survivre 8 tours, il faut être survivant à la fin, il faut être vivant, il faut avoir apporté le plus de butin.
Bah, donc forcément tu te couches.
Et ben t'as intérêt à te coucher, ouais, s'il y en a trois qui te visent, mais t'es pas obligé.
Oui, mais tu perds.
T'es pas obligé. Bah non, peut-être qu'ils ont mis. Parce qu'après, si les joueurs ils ont mis. En fait, après on révèle. Si les joueurs ils ont mis des cartes clic, ils ont chargé à blanc, donc il se passe rien. S'ils ont mis par contre une carte bang, tu te prends une blessure. Ouais, et au bout de 3 blessures, t'es mort. Et quand t'as commencé à prendre 2 blessures, tu commences à moins faire le mal.
Et t'as combien de balles dans ton chargeur?
Bah t'en as 3 sur 8. Donc en 3 tours, tu vas pouvoir tirer. En sachant. Donc ensuite, une fois que les joueurs survivants. Une fois que les survivants se partagent le butin, en fait, à partir du parrain, s'il est encore en vie, sinon le joueur à sa gauche, et ainsi de suite, prennent sur le butin, il y a 8 cartes, donc le parrain prend une première carte, ensuite le deuxième joueur, parmi les survivants, ils prennent le butin, etc. Dans les cartes butin, il y a de l'argent. 20 000, 5 000, 10 000, je suppose que c'est $, sans doute. On peut aussi regagner des balles qu'on va pouvoir mettre dans son chargeur, ou on va pouvoir gagner, enfin soigner ses blessures.
C'est bien ça.
Ouais, ça c'est pas mal. Un joueur qui se retrouve avec 4 balles ou machin, tu vas comment faire ça, tu vas un peu plus te méfier.
Ça le respecter.
Ouais, respect. C'est important la notion de respect dans un jeu de parrain. Et puis on peut aussi se soigner, ça c'est aussi très important. Et puis sinon, il y a d'autres façons de gagner, c'est-à-dire qu'il y a aussi des cartes diamants qui rapportent pas beaucoup en tant que telles. carte diamant, elle vaut 1000, 2000, 5000 dollars.
Oui, c'est des dollars, oui.
Par contre, celui qui, à la fin de la partie, a le plus de cartes diamants, il rapporte quand même le magot, il rapporte le yukungun, le gros diamant qui, lui, vaut 60 000 dollars. Donc ça peut valoir le coup. Et puis il y a aussi une notion de collection, il y a des tableaux, et donc les tableaux, si t'en as un, il ne vaut pas beaucoup, il rapporte 2000, si t'en as deux, ça commence à rapporter un peu plus, à partir de 3, c'est... chaque tableau te rapporte 12 000. Donc il y a ce côté collection des tableaux qui peut être sympa.
Ouais, qu'il faut. Tu seras amené à prendre un petit peu, même si t'as pas très envie, parce que tu veux éviter que l'autre décolle.
Donc tu vas, voilà, donc il y a une compétition sur les joueurs. Des fois, tu vas finalement laisser les billets de 20 000 dollars parce que tu essaies de te concentrer sur les diamants. Ou bien tu vas essayer de faire les tableaux parce que tu dis que tu peux rafler tous les tableaux. Il y a les 8 cartes tableaux. Toutes les cartes seront proposées de toute façon en butin. Voilà, ça, les nouveautés du jeu, c'est notamment ils ont simplifié certaines cartes. On peut jouer maintenant à 8. Et moi j'ai joué à 8. C'est là où en fait à 8 ça devient très c'est vraiment un jeu qui est mortel, parce que si 3 joueurs te pointent, tu peux te prendre 3 balles et disparaître en un tour. Si t'as décidé que tu restais.
Ça sent le vécu un peu, non ?
Non, je l'ai pas fait moi. J'ai été prudent. C'est comme tous les jeux, c'est comme Colt Express, c'est comme tous ces jeux à plusieurs, etc. T'as intérêt à te faire le plus discret possible si tu veux avoir le droit au maximum de butin et pas trop te faire viser. Alors, ce qui est sympa, c'est d'être le parrain. Le parrain, t'es le premier à choisir le butin, donc c'est-à-dire que les joueurs qui sont juste à côté du parrain, ils ont aussi intérêt à pouvoir choisir dans les premiers. Parmi les cartes du butin, il y a aussi être parrain, en fait. Tu peux choisir de pas prendre d'argent et prendre plutôt d'être le parrain du prochain tour. Et le fait d'être le parrain, tu peux demander à un joueur de viser quelqu'un d'autre, et ça permet de te sauver d'une situation délicate. Ils sont perdus dans la chatroom.
Ouais, c'est pas...
Il y a du... indicible.
Ah là là. Et alors du coup, le jeu, il a gardé une très bonne dynamique, parce qu'en fait la règle a été simplifiée au maximum. La notion de partage du butin différente, elle permet de... elle rajoute une petite dimension stratégique en fait, un petit peu plus, un petit peu comme tu dis dans Creativity, que le joueur il peut choisir un petit peu sa façon de scorer. Et dans Cash and Gun ça va être pareil, tu as différents axes du coup de score, et ça c'est une bonne idée. Et le jeu il a tellement bien marché qu'on a fait le premier soir avec des joueurs qui connaissaient pas le jeu, on a fait 2 parties, ils étaient déjà partants pour faire une troisième dans la foulée, parce qu'en fait tu vois pas le temps passer, ça reste fun. Il peut juste y avoir le problème si un joueur a été un petit peu téméraire et il est mort au tour 3 par exemple, ça peut arriver.
Ouais.
Parce que typiquement un joueur il a mis une balle dans son chargeur, il se dit si je me couche ma balle elle est perdue, c'est dommage, donc je vais rester. Ouais. Il va encaisser les balles des autres, c'est pas très bon, il vaut mieux tant pis, tu perds ta balle. Et donc forcément il y a ce côté double guessing de savoir à quel moment opportun tu vas devoir mettre ta balle ou pas et qui tu vas devoir viser. Voilà, il y a de la négociation autour de la table, il y a un esprit effectivement où le parrain va prendre les accents du parrain de Coppola, enfin va retrouver tout
ça. Tu me cherches un petit peu.
On va retrouver tout ça, ce qui permet des parties toujours sympas. Vraiment, j'étais sceptique sur la réédition de Cash and Gun. Au final, on retrouve l'esprit du premier, même un petit peu du coup simplifié et plus agréable. Et puis ça permet à tous ceux qui, la plupart d'entre vous, je pense, ne connaissaient même pas en fait Cash and Gun, donc ça vous permet de mettre un jeu d'ambiance... Dans votre ludothèque et qui marchera très bien. Alors peut-être que certains ça va les gêner, je sais qu'à l'époque il y avait une polémique parce que on a des flingues en mousse et on se vise avec des flingues. Bref, franchement ça n'a pas posé de problème, je pense même, c'est bête à dire, mais je pense même qu'avec des enfants ça serait possible, ça ne les choquerait pas plus.
Ouais,
après ils n'auront pas la dimension stratégique
sur
du partage du butin. Oui, tu leur expliques ce que c'est que le parrain et il n'y a pas de problème hein. Regarde, tu vois ton parrain, c'est pareil.
Bon, bref. Cash and Gun.
C'est un jeu.
C'est un jeu de
Ludovic Maublanc.
Ludovic Maublanc. C'est la seconde édition.
Chez Repoprod.
Pour 4 à 8 joueurs. Pour 10 ans et plus.
Tu vois, à partir de 10 ans. Les enfants, ils connaissent bien.
Bah,
ils ont joué à GTA
collège, 5. Bon, quoi,
10 ans, ils ont joué à GTA. Ouais, donc c'est bon. Tu vois, c'est comme GTA. Et puis, c'est 30 euros.
On a une question dans la chatroom. Est-ce qu'il y a des extensions incluses et est-ce qu'ils prévoient de les ressortir ?
Dans Cash and Guns, non, par contre, il n'y a pas les extensions Uzi, il n'y a pas le Cash and Guns Live, et il y a même moins d'options. Ah, si, par contre, il y a des cartes experts après que tu peux jouer. Ça, ils ont rajouté des cartes experts un petit peu comme il y avait dans le 1, mais ils ont enlevé des trucs par rapport à la première édition. Il y avait d'autres options qu'ils ont enlevées. Et alors, il y a un énorme travail, parce qu'en fait, j'ai ressenti, j'avais la première édition aussi. La règle, elle tient sur même pas 2 pages. On va dire sur une page, la deuxième édition.
T'as préparé ?
Ouais, c'est préparé là. Alors que la première édition, tu prends le livret de règles, il y a eu au moins 8 pages.
Ouais.
C'est super compliqué et tout, alors qu'en fait, ils ont réussi à faire une règle super simple, concise. Il y a eu un vrai travail de, autour de la rédaction de la règle, et ça doit sans doute aider à ce que ce soit mieux apprécié par les autres joueurs. Après, les côtés illustration, c'est Kovali, qu'on aime ou pas, globalement ça passe. Et puis les personnages, il y a toujours plein de clins d'œil, donc ça reste très sympa. Ah, quand même, rappelez-vous, il y a 3 semaines, on vous a teasé sur Pandémie, le remède.
Et je vais essayer d'aller assez vite, je vais vous dire pourquoi j'ai bien aimé. Je vais vous décrire un petit peu tout ça.
Rappelons Pandémie.
Pandémie, c'est un jeu coopératif.
Sorti en 2008.
De Mac Leacock. Qui nous propose de trouver des remèdes à des épidémies qui vont éclater partout dans le monde. On va déplacer des personnages sur les lieux des épidémies, on va jouer les pompiers, enlever, enfin guérir les gens qui sont atteints. Et puis en même temps, il faut trouver des vaccins pour soigner dans le fond la maladie. Là, c'est un peu pareil, sauf que les dés servent à tout. Donc il y a deux types de dés, il y a les dés que chaque personnage va avoir et chaque personnage a une série de dés qui lui est propre. Et comme dans Le Désert Interdit, comme dans Pandémie, comme dans ces jeux-là, c'est un jeu à rôle. Par exemple, moi j'étais le dispatcher et je pouvais transporter un de mes petits camarades d'une case vers une autre. Les dés que je vais avoir, les faces des dés que je vais avoir ne sont pas les mêmes que ceux des autres personnages. Donc t'as vraiment une particularité en fonction des... Déjà les personnages sont très formatés.
T'en as combien de personnages?
Je sais pas, t'en as une série.
Suffisamment
Pour
ouais, varier quoi, t'as pas tous les personnages en jeu
hein. Non. Et puis je sais même pas combien on a de dés, là j'en vois 4, disons que... Je sais pas. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. L'idée c'est que...
À son tour, on va lancer les dés. L'important c'est de se faire plaisir.
On peut... C'est un running gag. On va lancer les dés et les dés qui vont tomber sur le symbole de biohazard là de truc va faire avancer une piste qui sera la piste de la menace. Plus ça va avancer, plus on va rajouter des dés de tout à la fin. J'expliquerai donc. Plus on va faire de face biohazard et plus le jeu sera compliqué. Et on peut toujours relancer, sauf les dés qui sont biohazard. Donc en fait, plus on se dit ouais, non, mais j'ai pas ce que je veux, je vais relancer. Et plus on aura de chance de tomber sur des phases biohazard et donc de provoquer la fin du monde, quoi. Donc c'est ça qui est déjà bien fait, c'est qu'en fin de compte, il faut faire la part des choses entre j'ai ce que je veux, non, j'ai pas ce que je veux et je veux relancer, et j'ai pas ce que je veux, mais je veux pas qu'il y ait que la maladie progresse, donc je vais m'arrêter là. La notion de stop ou encore. L'idée, c'est que il y a six petits cercles sur lesquels on va mettre des dés. Les dés sont numérotés de 1 à 6 et vont arriver. À la fin du tour, on va lancer des dés. Les 1 vont sur la case 1, les 2 vont sur la case 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, ça représente les régions du monde, en fait. Sauf que tous les dés vont pas au même endroit, mais ça, on s'en fout. C'est dans l'explication qu'on s'en fout, c'est pas dans le jeu. D'accord ?
Oui, on a bien compris.
L'idée, c'est que il va falloir aller sur ces régions. On va utiliser certains de nos dés pour guérir la maladie, ce qui veut dire de guérir les malades, donc de prendre les dés et les mettre dans un rond central. Et après, on peut rechercher un vaccin. Et l'action de rechercher un vaccin, c'est que sur nos dés, on va avoir un symbole de fiole. On prend le dé qu'on a roulé, enfin qu'on a lancé, qui est tombé sur la face fiole. On prend le dé de maladie qui est au centre. On met le dé de maladie sur son dé à soi et on le met de côté. Et à un moment dans la partie, on va dire, je veux guérir cette maladie, et on va lancer tous les dés. Il faut faire plus de 14. 14
Je sais plus, 12 mais ou 14. Je
ça
sais
doit
plus.
Être 14.
D'accord, parce que les dés, il y a des dés, ouais, t'as les dés qui ont des valeurs.
C'est ça, 1 à 6.
Et en même temps, tant que tes fioles sont de côté avec tes cubes en attente, c'est toujours des dés que tu pourras pas lancer à ton tour pour faire des actions. Donc,
c'est ça.
T'es bien obligé
un
de les lancer.
Un petit peu, en fait, comme dans le jeu, quand tu regardes des cartes pour chercher le vaccin. De toute façon, tu te paralyses, peut-être parmi 5 cartes en main. Ou si,
un petit peu, sauf
tu
que
dans, un petit peu au niveau action.
Dans Pandémie, tu peux toujours faire tes actions, tu peux faire toutes les actions.
Ouais, mais les cartes permettaient souvent de prendre l'avion, tout ça, de se déplacer plus vite.
Ah oui, oui,
tu te fermes un petit peu là-dessus. Ou alors, tu es obligé de défausser des cartes parce que parmi ce que tu as pioché.
Sauf que dans Pandémie, c'était un peu les cartes, c'était les cartes en plus. Alors que là, c'est tes actions principales.
Oui.
Mais bon, ça quand même. Et c'est bien transcrit quand même. C'est bien transcrit parce que ça veut dire que quand tu fais tes recherches, eh ben, tu fais rien d'autre. Enfin, tu vois, tu vas pas sur le terrain pour guérir les gens. Et ça, c'est très bien transcrit aussi. Et dernière chose, tu as un système de propagation de la maladie. Quand tu as 4 dés qui ont la même valeur dans une région, sur une des 6 tuiles rondes, eh ben, les dés, le quatrième dé, il va sur la tuile d'à côté. S'il y en a encore 3, et ben voilà, tu vois, ça se propage comme ça. Et les propagations, t'as le droit à 8 propagations, enfin 7 propagations.
Et après, c'est la fin de la partie, quoi.
C'est la fin de la partie. Donc, du très classique, c'est-à-dire, tu te déplaces dans des, entre guillemets, des régions, même si elles sont thématisées, tu vas guérir des gens, tu vas chercher un vaccin, et puis fais avec un système, un mécanisme de dé qui est très intelligent, très bien trouvé et qui colle très bien au jeu, avec en plus un effet où si tu peux pas rajouter de dés au centre à la fin de ton tour, tu as perdu la partie. Ce qui veut dire que il faut non seulement soigner des gens pour prendre des dés et les remettre au milieu, mais en plus il faut prendre des dés au milieu pour les remettre dans le sac. Donc c'est la sensation, tu sais, de pesanteur, et te dire il faut vraiment que je merde pas, que je reprenne des dés, que je les mets dans le sac, que je choisis.
Ça m'a l'air un peu plus hasardeux dans le sens.
Parce que c'est un jeu de dés, c'est pour ça que tu dis ça.
Ouais, mais dans le sens pour prévoir en fait, parce que dans le jeu Pandémie, t'arrives à peu près à deviner un petit peu quand même où sont tes menaces, puisque c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent que tu remets sur la pile.
Non, parce que là en fait, quand je pense que c'est par couleur, on a fait qu'une seule partie, donc c'est pour ça que je suis approximatif. Je pense que c'est par couleur, c'est-à-dire que si t'as sur la case 2, enfin sur la tuile 2, si t'as du jaune et du. Je regarde parce qu'il peut pas y avoir toutes les couleurs.
Du rouge
Non, du noir.
Du noir.
Si t'as du jaune et du noir. Il faut 4 dés jaunes. Si on a déjà 3, tu vas aller là-bas et puis tu vas soigner du jaune.
Ouais, mais c'est notamment tes symboles biohazard que tu as.
Non, là c'est autre chose. C'est-à-dire les biohazards vont te monter sur une échelle qui va dire combien de dés tu vas mettre sur les différentes cases. Là en l'occurrence c'est des petits symboles de seringue. Quand tu fais la seringue, tu peux le remettre là. Donc c'est, pour moi c'est plus court que Pandémie. Il y a des choix à faire et t'as pas forcément plus de, enfin dans Pandémie, si tu veux, quand le foyer était parti, tu savais que t'avais la carte de la ville qui avait été découverte et qu'elle allait revenir automatiquement. Tu te dis,
t'as cette dimension là dans Pandémie,
tu te rappelais, tu te disais ouais, mais là il faut y aller parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, le foyer va revenir, ce qui était très bien thématiquement, parce que tu te dis voilà, il y a Ebola dans ce pays là dans cette ville là peut-être que le foyer il est pas complètement éteint, surtout si j'ai pas trouvé de remède. Là en l'occurrence, t'as pas ça, c'est à dire que comme c'est des dés que tu tires d'un sac et tu les lances, suivant la couleur et le chiffre, et en fin de compte le chiffre dépend
de
la couleur.
C'est là dessus que je me demande si c'est pas un peu plus hasardeux.
Je crois pas.
Pas forcément dans le sens négatif, hein, mais juste voilà, c'est ça, parce que dans Pandémie, certains joueurs pouvaient te résoudre ça à de la pure statistique.
Oui.
La pioche des cartes.
Oui, non, c'est-à-dire quand tu regardes bien sur les, en fait, sur les cases, sur les tuiles rondes, t'as des couleurs de dés. Tous les dés ne vont pas, ne sont pas équiprobables sur toutes les tuiles.
D'accord.
Donc t'as quand même, voilà, si tu vois beaucoup de rouge sur ton rond central ou beaucoup de jaune, tu te dis bon voilà, il va pas en sortir beaucoup. Ça se gère aussi. C'est pas.
D'accord. Ok.
C'est pas aussi hasardeux que ça.
C'est un jeu suffisamment différent aussi pour pas faire double emploi.
Non.
Parce que la vraie question, elle est là aussi.
Pour le coup, c'est ça remplace.
Quelqu'un qui a un Pandémie, est-ce qu'il a intérêt à l'avoir? Est-ce que non? Voilà, parce que.
Sauf à se débarrasser de Pandémie, quoi.
Et bah, pandémie, moi, des fois, il est un peu sur l'empointillé en ce moment. Et le...
Bah, moi, je l'ai plus, hein, j'ai des airs interdits, j'ai pas...
Ouais, ça, des airs interdits est plus sympa que... Et le... Et si quelqu'un n'a pas pandémie, tu comptes le, la version pandémie traditionnelle, carte, entre guillemets, ou la version remède, tu conseillerais quoi? Parce que globalement, c'est au même prix, hein. C'était un petit peu plus cher le pandémie normal, mais...
Peut-être le remède.
La version remède, parce que plus rapide.
Parce que plus rapide, parce que ça. T'as toujours le, la question du rôle que tu peux utiliser. Donc, ça, c'est très sympa. T'as toujours des choix à faire. C'est-à-dire, est-ce que je vais. Est-ce que je soigne? Est-ce que je recherche? Est-ce que je te donne les dés? Ou est-ce que tu me donnes des dés? Parce que ça aussi, des fois, t'as des gens qui savent pas faire un 14 avec 3 dés. Donc, ceux-là, il faut pas leur donner les dés.
3, n'est-ce pas, pas loin.
Ouais, en fait, il a lancé, David a lancé 5 dés. Il a fait 3-1. Et où il a fait 4-1 et 2 plus. En fait, le 6, il n'y a pas de 6, c'est un plus en fait. Tiens, t'as quelque chose dont j'ai pas parlé. En fait, t'as des cartes aussi qui te permettent, c'est des cartes subsidiaires. En fait, quand tu lances les dés, tu fais des recherches. Que t'as des plus. Non, quand tu lances les dés.
Pour trouver
la fin. Non, c'est à la fin de la manche.
Ah oui, tout à fait, j'avais oublié ça.
Tu lances les dés pour poser tes dés sur les différentes régions. Si tu fais une croix, qui est le 6, en fait. C'est le 6. Si tu fais une croix.
Voilà, c'était une croix.
C'est comme tous les dés.
Ciao,
en fait, non, mais comme tous les dés vont pas au même endroit, c'est pour ça qu'il y a des croix et qu'ils sont pas forcément les 6. Quand tu fais des croix, ces croix peuvent te servir à acheter des cartes, qui sont des remèdes, des trucs un peu des boosts en fait par rapport à ton.
Fini, vas-y.
Faut
brûler les iPhones avant les
voilà, c'est tout.
Super, les croix, c'est top quoi. Les croix, le jeu n'aurait pas du tout la même valeur.
La croix rouge, la croix bleue, la croix jaune, quoi, tu vois, ça te permet d'avoir des cartes un peu faites quoi. Donc, je pense que si j'avais acheté
la version jeu,
ouais, c'est ça. Parce que c'est pas moins riche et c'est moins long.
C'est fluide.
Et tu vois, je prendrais 18.
T'as pas la notion, la problématique d'échanger les cartes, les machins. Ouais, 18 soldes.
Et je m'achèterai ce 18 soldats du feu et Pandémie The Cure. Voilà.
Mais du coup,
j'ai bien aimé.
T'as les interdits.
Et du coup, je vais peut-être ma prochaine commande chez philibertnet.com. Ça sera sans doute.
18 soldats du feu.
Non,
Pandémie Lord.
Ouais, c'est ça. Et puis je m'achèterai. C'est comment le nom original
de...
Fire Rescue.
Flashpoint.
Ouais, Flashpoint.
Les extensions.
J'aime juste. Oui, ils ont des prix à SN. Moi, non, j'achèterai pas ça. Mais... Donc.
Ok, Pandémie le Romaine. C'est un jeu de Matt Leacock chez Philosophia.
Ouais.
Pour 2 à 5 joueurs.
C'est
ça. À partir d'une dizaine d'années.
Ouais.
Peut-être même 8 ans.
Mmh.
Ouais, 10 ans, ok.
Ouais.
Et parce qu'il faut quand même prendre en compte la dimension un peu plus complexe, ouais. Et puis, c'est une quarantaine d'euros.
C'est pas mal.
C'est 36€ chez Philibert.
C'est pas bien de frapper les enfants et quand t'as le gamin qui dit non, moi je veux faire ça, que c'est un jeu.
Ben, les enfants, ma fille a 8 ans, elle préfère l'île interdite ou des interdits, hein, par exemple. L'île interdite, c'est parfait pour jouer un jeu coop avec des enfants. Ça reste suffisamment simple.
Parce que le désert, il faut faire attention de pas.
Il y a la boisson, enfin, il faut faire gaffe à l'eau, il faut faire gaffe à plein de trucs.
Le puits, il faut pas y aller tout seul. Parce
voilà,
que sinon,
c'est plus dur, c'est plus de coopération, effectivement.
Il est fort, ce Leacock. Il est fort aussi pour. Faire durer et perdurer ces jeux, mais
c'est les éditeurs qui doivent lui demander, je pense. Mais il est fort à savoir le refaire, quoi.
Donc moi j'ai bien aimé.
En même temps, c'est tout. Il boit tout autour du même jeu.
Et puis au final, il va faire la version, la bonne version de son jeu, quoi.
Mais il est peut-être déjà faite, mais tu le sais pas. Moi, c'est Désert Interdit, mon préféré de toute la série. J'ai pas joué à Remède, mais. Les interdits me plaît bien. On conclut là-dessus.
Parce oui.
Je t'entends. Voilà.
Hein? Ouais, je sais.
Moi, j'aimerais rentrer chez moi.
D'accord. Oui, c'est d'accord.
Voilà.
On vous dit merci de nous écouter.
Oui. N'oubliez pas podcast.proxyjeux.fr.
Je peux pas leur redire bonne année.
Ah si, bien sûr. On est fin janvier. Bonne année.
Ah merde. C'est,
on a rejoint
le 19 décembre. Excuse-moi. Ouais,
on espère que vous avez passé de très bonnes fêtes.
Techniquement, certains disent qu'on a rejoint jusqu'au 31 janvier. Voilà.
D'accord.
Moi, je suis de ceux qui disent bonne année n'importe quand, donc pas forcément en janvier. Mais bonne année. Hein, jouez bien.
Et bonne santé.
Ah non, merde, ça presse.
Oh là là.
Oui, on peut vous non, rappeler là où on peut vous nous retrouver, voilà. Sur podcast.proxyjeux, proxy-jeux.fr. Ça, c'est le site. Mettez un commentaire.
Sur iTunes aussi.
Ou allez voir. Alors, on nous a dit qu'on ne trouvait pas bien les.
En fait, il y a un moteur de recherche sur le site. Il y a des articles que vous n'avez pas retrouvés.
Il faut utiliser Google, en fait. Vous faites proxy jeu et avec ce que vous voulez trouver.
Ouais, donc, sinon, en fait, il y a une petite loupe en haut à droite du site et vous appuyez dessus. En fait, beaucoup de. Enfin, souvent, les recherches, elles sont à droite ou bien elles sont en haut. Sinon, je peux peut-être en glisser une de recherche. Je peux voir sur le bandeau de droite, mais il n'y a plus de place. Sinon, en haut, vous avez la loupe en haut, en fait. Vous faites une recherche. Mais c'est vrai qu'il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Normalement, nos articles aussi, WordPress fait ça bien, non? Il relie par rapport aux mots-clés qu'on met, il arrive à relier des articles par rapport à ceux qu'on met. Alors, à la fin de l'article, ils vous disent
si vous avez aimé cet article, vous aimerez.
Ouais, il appelle ça, je sais pas comment il appelle ça, mais ouais, il fait déjà ça automatiquement.
Le Twitter, proxyjeux, @proxyjeux, et puis à jeux à deux, n'oublions pas.
Ouais, bah, c'est moi. Le Facebook.
Ouais, proxycheux, aimez-nous sur Facebook, vous n'êtes pas nombreux. Alors, il n'y a pas non plus beaucoup d'activités.
Mais donc, vous pouvez nous aimer, on risque pas de vous pourrir votre timeline.
ne nous faites pas des MP sur Facebook. Parce que j'ai découvert des messages qui datent de novembre, donc c'est un peu triste de voir trois semaines ou un mois après que vous nous avez écrit. Et en fait, moi je vois mes MP sur Facebook, mais pas forcément le.
Ceux des pages, ouais.
Bah c'est.
Ouais, tout à fait.
Voilà. Et puis j'ai pas de notification, je sais pas pourquoi. Contact@proxyjeux.
.fr.
Il y a un tiret contact.proxy-jeux. Ou c'est tout attaché?
Dans un mail, donc contact@proxy-jeux.fr.
Proxy-jeux.fr.
Voilà, la page fait l'ouvrage Google+.
Google+, si vous voulez. iTunes.
Après, un Snapchat, non, c'est bon.
Snapchat, ça, c'est moi, donc Olivier DPJ.
Oui, nous souhaite de bonnes fêtes à la Proxy Team.
Eh ben, bonne fête, oui. Alors, on vous rappelle aussi que tous les mois, en général, le troisième jeudi de chaque mois, on enregistre. Donc, sur MixLR.
Alors, on n'a pas fixé encore la date de janvier, mais voilà.
Mais
ce sera
mais
par là.
Voilà. Donc, écoutez, encore un bon numéro.
Oui.
On va être content d'aller bosser vendredi. Heureusement que c'est des vacances.
Et d'aller se coucher, là.
Ouais, d'aller se coucher.
Dommage, je bosse.
Donc on
conclut, voilà.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Pour les numéros 63. Là, on est déjà en février. Et en attendant,
jouez bien.
On est le 19 hein, aujourd'hui.
Ah oui, merde. Nous sommes le 19 décembre 2014 et vous écoutez la quatrième partie du 62e épisode de Proxy Jeux. Bonjour.
Et bonjour Guillaume. Et oui, il est minuit. Minuit 4. Donc bonjour Eve.
Il s'appelle Guillaume lui.
Ah oui, t'as encore dit bonjour Guillaume.